se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Il est 7h et vous écoutez RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Comment la rue va-t-elle répondre à Emmanuel Macron? Il y a la crainte d'une radicalisation. Les autorités, mais aussi les syndicats le disent ce matin, dispositif de sécurité inédit. C'est la 9e journée de mobilisation qui démarre, journée spéciale sur RMC. La police a déjà délogé ce matin des manifestants dans un dépôt de bus de Pantin, près de Paris. RMC est sur place. Et puis la stupéfaction à Lille, où un lycéen est mort pendant les épreuves du bac. C'était avant-hier. Et ses amis témoignent ce matin sur RMC.
Et puis la journée de tous les dangers, vous en parliez, dans la rue, on y reviendra juste après ce journal avec le témoin du jour, il est syndicaliste policier. Ce matin, les autorités, mais aussi les syndicats, redoutent une radicalisation du mouvement.
Oui, parce que ça y est, le 49-3 a été dégainé, les motions de censure rejetées, le président Emmanuel Macron a parlé, les opposants sont dans la rue tous les soirs depuis une semaine. Maintenant, 12 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. C'est un dispositif de sécurité inédit. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte de la part des autorités, mais aussi des syndicats, que ça dégénère, à Victor Joannin.
Aujourd'hui, dans les cortèges, les services d'ordre des syndicats seront particulièrement aux aguets. À Paris, la CFDT fera venir plus de militants pour assurer sa sécurité et sera en lien permanent avec la préfecture pour signaler toute intrusion de casseurs. Mais des syndicalistes aussi pourraient aller à l'affrontement. Les gars nous disent qu'ils en ont marre du blabla et les images des violences policières tournent beaucoup, constate un cheminot. On est encore plus vigilant que d'habitude, confirme le numéro 1 d'une confédération qui appelle tout de même ses troupes à manifester car les incidents ont généralement lieu en marge du cortège, mais qui s'attend à ce que des familles et des personnes âgées aient peur de défiler. Un haut responsable renvoie la faute à l'exécutif. Le terreau de la violence, c'est eux. On est super raisonnable depuis le début, mais le président est autiste et la colère gronde. Des responsables syndicaux qui espèrent tous qu'il n'y aura pas de casse, et s'il y en a, qu'elle ne masquera pas l'ampleur de la mobilisation.
Alors, à préciser quand même que la soirée a été moins tendue que les précédentes dans les grandes villes, malgré les rassemblements, encore des manifestations spontanées à Paris, à Lyon et Marseille notamment. Alors, on va prendre la température une première fois ce matin avec Martin Bourdin. Martin, en direct pour RMC. Vous êtes à Pantin, c'est au nord-est de Paris, dans un dépôt de bus où la police intervient déjà donc pour empêcher des actions qui étaient prévues ce matin.
Exactement, Quentin. Ils sont une soixantaine de manifestants réunis ici depuis 5h30 pour bloquer un dépôt de bus. Et en face d'eux, une trentaine de policiers, certains casqués, qui leur font face. Pour le moment, tout se passe dans le calme, dans la discussion. Mais cette présence policière, eh bien, elle surprend les manifestants. Ils n'avaient jamais vu autant de membres des forces de l'ordre lors des deux précédents blocages de ce dépôt. Les manifestants, qui sont des salariés de la RATP, mais aussi des profs, des agents territoriaux, voulaient notamment bloquer la route, la Nationale 2, qui permet de rejoindre la Villette depuis le nord de Paris. Les policiers leur ont demandé de revenir sur le trottoir au bout de 5 minutes, mais cette route, elle a en revanche été longtemps bloquée par une voiture de police. Les voitures peuvent à nouveau circuler depuis quelques instants sur cette Nationale 2. La police qui tente aussi de négocier que le blocage du dépôt se transforme en filtrage. Depuis 5h30 ce matin, seulement 3 bus sont sortis de ce dépôt de bus.
Alors, le climat a l'air de se tendre ce matin. On va vivre ça heure par heure. On va suivre ça heure par heure sur RMC en cette nouvelle journée spéciale au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, qui ne recule pas, donc qui fustige même les syndicats, les violences, les factieux, c'est le mot qu'il emploie en faisant le parallèle avec l'assaut du Capitole aux États-Unis. Sébastien Krebs du service politique à RMC. Le président assume encore ce matin l'impopularité de sa réforme.
Oui, il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. Voilà ce qu'écrit le chef de l'État sur Twitter, message posté hier soir. J'aime notre pays, écrit Emmanuel Macron. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Hier à 13h, il parlait déjà de nécessité, de sens des responsabilités, avec pour unique regret de ne pas avoir réussi à convaincre. Dommage qu'il n'ait pas parlé plus tôt, réagissait hier soir un élu de la majorité. Un président qui souffle le chaud et le froid, qui promet d'entendre les colères, mais tout en restant inflexible, qui attaque les syndicats, mais qui leur propose de revenir à la table. Ce matin sur RMC, Dominique Corona de l'UNSA se dit très en colère et parle de point de rupture. Il va falloir un geste d'apaisement avec les partenaires sociaux, plaide un député.
Alors il y a un symbole, Sébastien, Emmanuel Macron doit dîner avec le roi Charles III, le nouveau roi, lundi prochain à Versailles. Finalement, les plans vont peut-être changer.
Oui, information de confrères de BFM TV, les autorités envisagent de déplacer le dîner peut-être à l'Élysée, disons de façon plus classique. Voyez, le plan initial, c'était un fastueux banquet dans la galerie des glaces avec une table de 50 mètres. C'est le symbole qui inquiète. Voyez l'image quelque peu hors sol que ça pourrait donner des deux chefs d'État sous les dorures de Versailles dans un cadre très royal, alors que la colère continue dans la rue.
Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir dans son interview? La réponse est non pour près de 7 Français sur 10, d'après le dernier sondage Elab pour BFM TV. Et la preuve, tiens, écoutez ce matin avec Mao Becker-Granier pour RMC à Rennes. Rennes où une manifestation de pêcheurs hier a tourné aux affrontements.
Touchée en son fort intérieur par les mots qu'elle juge honnêtes du président,
je l'ai entendu.
Marie-Sophie a été convaincue par l'insistance d'Emmanuel Macron sur la nécessité de cette réforme.
Je ne pense pas qu'un président soit heureux d'imposer une réforme aussi impopulaire. Avons-nous le choix?
Mais Marie-Sophie fait plutôt figure d'exception dans les rues rennaises où les stigmates des manifestations de la veille sont encore visibles. Hélène, elle n'a pas apprécié l'argument fataliste.
Il y a plein aujourd'hui d'économistes qui ont prouvé effectivement le contraire sur le fait qu'elle n'était pas forcément nécessaire, en tout cas pas par ce biais-là.
Vincent lui a trouvé le ton extrêmement méprisant avec les manifestants.
Il reste buté, il en a rien à foutre des revendications des gens dans la rue.
La rue Siobhan y est descendue 6 fois pour montrer sa colère, parfois en manifestation sauvage, alors être pointé du doigt comme des factions ou des factieux, très peu pour elle.
La violence, elle est légitime quand c'est celle de l'État et quand c'est la nôtre, ils ne l'acceptent pas. C'est des factions et c'est les limites des milices.
Plus remotivée que jamais après les propos indécents à ses yeux du président, Siobhan sera à 11h place de Bretagne pour à nouveau fouler le pavé.
Voilà, 11h à Rennes, la manifestation pareil à Lyon. Ce sera plutôt 10h à Nice et Avignon, 10h30 à Marseille et Montpellier, midi à Bordeaux, 14h à Paris entre Bastille et Opéra cette fois. Hier soir, c'est devant la raffinerie de Gonfreville en Normandie, devant la plus grande de France, hein, qui avait un rassemblement après l'annonce de réquisition du personnel gréviste, comme en début de semaine à Fos-sur-Mer dans la région marseillaise. La galère, tiens, c'est à signaler, est plus marquée ce matin dans les transports avec un TGV sur deux, un tiers des TER, peu de métro à Marseille, aucun tramway à Nice, au mieux un RER sur deux et un RER et un métro et un RER sur deux à Paris en banlieue. Cette voyageuse, tiens, écoutez comment ça se lassait ce matin à la gare de Chelles, c'est en région parisienne.
Il y a un train presque toutes les heures, donc c'est galère, c'est fatigant. Maintenant, on prend l'habitude, quoi, mais c'est très saoulant. Ouais. C'est bien de faire grève, mais c'est vrai que la grève, là, ça dure, là. Franchement, moi, ça me commence à vraiment me saouler, les transports, qui est tout le temps une galère. Le problème, c'est que je suis entre les deux, je les soutiens, mais en même temps, c'est casse-pieds.
Voilà, RMC à vos côtés toute la journée. Vous nous signalez ce matin au 32-16 la réouverture partielle sur une voie de chaque côté du pont de Saint-Nazaire, pont qui était fermé depuis hier, depuis les dégradations lors d'une manifestation. À 7h07 sur RMC, je vous le disais, c'est la stupéfaction à Lille, où un lycéen de 19 ans qui passait le bac est mort d'un malaise cardiaque. Ça s'est passé avant-hier, lors des épreuves anticipées du baccalauréat. Ce lycéen était en train de composer quand il s'est effondré et Marion Gauthier a retrouvé pour RMC certains des 80 lycéens qui étaient dans la salle au moment du drame.
Il répète son incompréhension. L'ami endeuillé raconte d'une voix blanche les sujets distribués, l'émargement.
J'entends mon ami suffoquer, quoi, qui a plus de respiration.
Léo le rattrape avant sa chute et appelle à l'aide.
Je savais pas qu'il était en train de mourir, mais je le sentais, quoi. Ses yeux, ses mains qui deviennent violettes, sa tête. Je regardais mon ami et j'essayais de faire quelque chose, le réveiller en disant son prénom, en criant. Moi-même, j'ai dû dire à plusieurs reprises d'appeler les pompiers.
Qui finissent par arriver. Les élèves sont alors emmenés dans une seconde salle, invités à continuer leur épreuve, dit-il.
Je pouvais pas voir mon copain mourir et en même temps écrire ou bien réfléchir.
De la colère, Léo dénonce, comme d'autres camarades, un manque de réactivité des surveillants. Le rectorat assure que les secours ont été contactés directement. Rectorat qui repousse l'épreuve.
On a vraiment pas la tête à réviser, là, je pense.
Mathieu a juste entendu son ami tombé derrière lui, puis le chaos.
Je culpabilise un petit peu parce que je me dis que même à mon échelle, j'aurais pu faire quelque chose. On n'arrive pas vraiment à réaliser qu'on ne pourra plus le revoir.
Tous deux se préparent pourtant à retourner en cours pour le disparu parce qu'il voulait son bac. Salut Léo, je le décrocherai aussi.
Tiens, et puis je vous présente l'homme le plus rapide du monde, le skieur français Simon Billy qui vient de battre le record du monde de vitesse à ski. 255 km/h quand même pour ce monsieur qui vient de battre ce record sur la piste de Vars dans les Hautes-Alpes. 7 ans que ce record n'avait pas été battu. C'est une histoire de famille puisque son papa avait déjà été le skieur le plus rapide du monde à la fin des années 80.
255 km/h.
Oui, comme Charles Magnan le matin quand il est en retard à RMC.
Et en fait, il avait un défi paternel à relever, quoi.
C'est ça.
J'adore, je ferais mieux que papa.
Son papa avait le record, un Italien l'avait battu, et lui l'a repris il y a quelques années, et là, il vient de l'améliorer.
Vive la famille. Il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
Et RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Pauline.
Ce matin, vous avez répondu à l'appel à l'aide d'une ancienne accompagnante d'élèves handicapés.
Oui, Nicole, c'est une toute jeune retraitée de 63 ans. Jusqu'en août dernier, elle était AESH, accompagnante d'élèves handicapés dans une école primaire près de Toulouse. À la fin de son contrat, le rectorat devait lui verser une prime de précarité, mais cet argent, un peu plus de 1000 euros, elle l'attend depuis plus de 6 mois et pour elle, c'est vital.
J'ai exercé 4 ans. À chaque fois, c'était des CDD. Hein. Ma retraite s'élève à 935 euros. La situation aujourd'hui, c'est que j'ai été dans l'obligation de faire un dossier de surendettement. Je suis contrainte d'aller au Resto du Cœur. Je me retrouve isolée, sans aucun loisir. Je vis dans la misère.
Cette prime de précarité qui représente 10% brut des salaires perçus, elle aurait dû la recevoir dans un délai maximum d'un mois après la fin de son contrat, c'est la loi.
Alors pourquoi est-ce que la loi n'est pas respectée?
Nous avons contacté le rectorat de Toulouse pour le savoir. Nicole, qui est en grande difficulté financière, vous l'avez compris, n'avait aucune réponse depuis des mois. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. En 3 jours, nous avons fini par obtenir gain de cause. Notre jeune retraitée va percevoir 1105 euros précisément à la fin du mois. Pour justifier ce retard, le rectorat nous explique s'être emmêler les pinceaux, je cite, entre les multiples CDD de Nicole, dont certains ne remplissent pas les conditions requises pour toucher cette prime de précarité.
Et Amélie, en enquêtant, vous avez découvert un système très complexe et parfois, disons-le, injuste.
Oui, d'abord, jusqu'au 1er janvier 2021, en fait, les contractuels de la fonction publique, dont les AESH font partie, n'avaient tout simplement pas droit à une prime de précarité, même s'ils enchaînaient des CDD précaires, justement. Pour plus de justice sociale, une loi leur permet désormais d'en bénéficier, mais selon des conditions qui sont très restrictives, trop restrictives, disent les syndicats. Il faut savoir que le revenu mensuel d'une AESH, c'est 760 euros par mois en moyenne, mais pour toucher une prime de précarité, elle ne doit pas avoir été licenciée, ne pas être immédiatement réemployée, mais surtout que son dernier contrat soit de 11 mois maximum. Et pour la CGT Éducation, c'est une aberration. Elle réclame un élargissement à tous les CDD, quelle que soit leur durée, puisque tous les CDD des AESH sont par essence des CDD précaires.
C'est une prime de précarité, on ne peut pas ensuite reprocher ou demander que ça n'ait pas été si précaire. Voilà. Merci Amélie, en tout cas, d'avoir enquêté et d'avoir trouvé surtout une solution pour Nicole, on pense bien à elle. Il est 7h12 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 9e, et c'est la journée de tous les dangers. Voilà ce que dira la CFTC Police dans un instant dans Apolline Matin sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Et il est 7h14, vous êtes bien sur RMC.
RMC, journée spéciale.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Bonjour Axel Ronde.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et nous donner des précisions. Parce que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat CFTC Police. Vous êtes vous-même policier. Et c'est aujourd'hui donc cette 9e journée de mobilisation. Plus de 200 rassemblements dans toute la France. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est plus que pour aucune des journées depuis le début de cette mobilisation. Depuis 2 mois, il n'y avait jamais eu autant de forces de l'ordre qui ont été mobilisées. Les renseignements territoriaux disent redouter que des violences éclate. Est-ce que vous vous dites que c'est la journée où tout peut déraper?
Oui, bien évidemment. D'ailleurs, sur Paris, il y aura 5000 fonctionnaires de police et de gendarmes qui seront déployés sur toute la capitale et sur les itinéraires qui seront mis en place. Donc oui, nous attendons effectivement, malheureusement, comme on a pu voir ces 7 derniers jours, des manifestations assez spontanées qui ont quand même dérapé un petit peu au niveau des manifestants, puisqu'ils sont quand même pas mal brûlés.
Avec ces images du soir, effectivement, Axel Ronde, mais là, justement, c'est à nouveau une journée encadré, si je puis dire, par les syndicats, comme ça avait été le cas depuis janvier. Et toutes ces manifestations-là avaient toujours été calmes. Est-ce que celle-ci, malgré la présence des syndicats, peut dégénéré.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu des jeunes qui se sont greffés à cette venue l'année nuit, hein, et on a peur effectivement que eux aussi viennent sur ces manifestations parce qu'ils n'étaient pas présents encore.
C'est pas les mêmes manifestants.
C'est pas les mêmes profils effectivement, et c'est vrai que les Black Blocs n'étaient pas là, hein, sur les ces 7 derniers jours. Et là, on a peur qu'ils viennent et que ça se, si vous voulez, que ça se, ben, ça contamine avec ces jeunes qui viennent en même temps.
C'est donc presque comme s'il y avait trois groupes de manifestants. Le gros groupe de manifestants qui était plutôt bon enfant, je reprends les mots même de Laurent Berger, qui sont ceux qui manifestaient paisiblement, même s'ils étaient en masse depuis janvier. Ensuite, il y a les jeunes. Ça, c'est plutôt les dernières manifestations sauvages des derniers soirs. Et puis, le troisième groupe, et celui que vous redoutez le plus, ce sont les Black Blocs, qui jusqu'alors ne s'étaient pas greffés. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe là, cette foule-là, et ce qui avait eu lieu au Capitole aux États-Unis ou au Brésil, les marches sur le palais présidentiel? C'est ce qu'Emmanuel Macron a évoqué hier. Il a dressé un parallèle, en tout cas en disant « Attention, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Brésil, et donc on ne peut que redouter que ce genre de choses arrive en France ». Est-ce que pour vous, c'est comparable ?
Non, parce que déjà, on a une matière, on est quand même très compétent au niveau du maintien de l'ordre. Ce sont des pays, effectivement, où ils n'ont pas beaucoup de maintien de l'ordre, si vous voulez. Ils n'ont pas de CRS, ce sont des unités qui se constituent quand il y a des troubles à l'ordre public. Nous, on a vraiment une spécificité au niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, c'est que nous avons des unités préparées à cela au niveau du maintien de l'ordre. Il y a des graduations aux réponses par rapport à des exactions qui seront commises. Effectivement, nous interviendrons en amont.
Après, dans les unités, Axel Ronde, puisque vous parlez des unités, il y a une unité en particulier, la Brave M, qui est dans le collimateur de tous ceux qui parlent de violences policières. Je recevais hier l'avocat Ari Halimi. Il disait que l'attitude des Brave M, qui sont donc ces unités de police mobile, était un groupe violent qui cherche même la violence.
Non, absolument pas. Je ne peux pas laisser dire des âneries pareilles, hein, de la part de cette personne, puisque de toute façon, quand ils disent que les Braves sont là pour casser des os, enfin c'est n'importe quoi. Non, les Braves, ils sont utiles, on le voit bien, hein, puisque il faut aller sur, faut interpeller ces individus, arrêter les exactions, hein, sur toute la capitale. Il y a des fonctionnaires de police qui ont fait à pied plus de 12 kilomètres dans la soirée. Donc on court après eux. Donc c'est vrai qu'en moto, on va plus vite. On peut finalement canaliser ces exactions, puisque finalement ce sont que pour l'instant des feux de poubelle. Nous arrivons à mettre fin à ces exactions, ils partent sur d'autres endroits, et effectivement c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, mais finalement ce dispositif avec cette unité, pour nous vraiment on en a.
Et vous les défendez besoin. Vous les défendez ce matin. Axel Ronde, merci.
Bien évidemment.
C'est aussi votre rôle, j'ai envie de dire. Axel Ronde, merci en tout cas d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat FTC Police, et vous faites partie de ceux qui, c'est FTC Police qui redoutent donc que des manifestations dégénèrent et des actes de violence dans la journée. Il est 7h19 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Suite de notre journée spéciale sur RMC, 9e acte de la contestation contre la réforme des retraites et de la politique avec le député RN Thomas Ménager. Il sera l'invité du jour à 7h40. Il appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale, et puis à 8h30, notez-le, ce sera Laurent Berger. Avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Lechypre et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les indiscrets du service politique avec Romain Cluzel. Bonjour Romain.
Bonjour Apolline.
Selon les informations de BFM TV, le dîner d'État entre Emmanuel Macron et le roi Charles III, prévu lundi à Versailles, pourrait finalement être déplacé. C'était le symbole qui inquiète. Hein.
Oui, imaginez une réception prestigieuse à Versailles dans la galerie des glaces du château. Une table de 50 mètres avec tout le service de porcelaine pendant que des Français manifestent contre la réforme des retraites. C'est un mauvais télescopage, c'est sûr. La symbolique est difficile à gérer, admettent plusieurs parlementaires du camp présidentiel. Peut-être qu'il va falloir faire moins fastueux, reconnaît un cadre du Modem assez partagé. On ne va pas non plus amener le roi chez Ibis. Le déplacement de ce dîner d'État, moment fort de la première visite du roi Charles III, n'est n'est pas encore acté, mais d'autres lieux sont envisagés, avec comme principale piste l'Élysée. On ne va pas s'arrêter de vivre. La monarchie anglaise, ça se respecte, s'agace un autre membre de la majorité qui insiste. La politique intérieure ne doit jamais polluer nos relations extérieures.
Et en attendant, à gauche, on prépare la réplique.
Et la critique, elle est toute trouvée. Il n'y aura pas un, mais deux monarques lundi lors de ce dîner. On n'y échappera pas, anticipe déjà un député Horizon. Les Insoumis préparent une tribune pour dénoncer cette réception royale. Et puis certains et les filles réfléchissent aussi à des rassemblements, soit à proximité du dîner d'État, soit devant le Sénat, où le monarque britannique doit prononcer un discours lundi. Je prépare mes cocardes, s'amuse déjà un député, qui voit tout de même des limites à une telle action. La mobilisation doit rester contre la réforme des retraites et pas la venue d'un chef d'État.
Les indiscrets du service politique avec Romain Cluzel. Merci Romain.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre d'affaires, avec vous. Vous avez vu Emmanuel Macron hier, il a dénoncé le cynisme de certaines grandes entreprises qui profitent des bénéfices records pour racheter leurs propres actions en bourse. Ça veut dire quoi?
Alors, le rachat d'actions, ça consiste pour une société à racheter ses propres actions en bourse et à les détruire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'actions de l'entreprise en circulation, alors que la valeur de l'entreprise, elle, n'a pas changé. Donc, ça fait monter la valeur de l'action. Et puis, au moment de distribuer les bénéfices, bah, comme il y a moins d'actions, le bénéfice par action est plus élevé, puisque c'est un peu comme quand vous coupez un gâteau, si vous voulez. Si vous faites moins de parts, eh ben forcément, les parts sont plus grosses. Ça n'est pas une pratique nouvelle, mais c'est vrai qu'elle est plus répandue aux États-Unis qu'en France.
Ça représente quelle somme?
En 2022, déjà, les entreprises du CAC 40 ont racheté pour presque 24 milliards d'euros de leurs actions, nous dit la lettre financière Vernimen. En 2023, ce sera également un très bon cru pour les rachats d'actions. Total Energy prévoit 2 milliards de dollars de rachats d'actions rien qu'au premier trimestre. Stellantis, LVMH, 1,5 milliard. BNP Paribas souhaite consacrer 5 milliards d'euros à un programme de rachat d'actions. Ça concerne, en fait, il faut bien le dire, les grandes entreprises du CAC 40, donc quelques dizaines de très grandes entreprises en France.
Et qu'est-ce que ça pourrait changer?
Alors, Bruno Le Maire, au Sénat, a évoqué un possible doublement des sommes versées au titre de ces dispositifs d'intéressement, de participation, de primes défiscalisées dans les entreprises de plus 5000 salariés. Donc c'est bien de vouloir mieux redistribuer la valeur, mais là, finalement, ça ne profiterait qu'aux salariés de ces grandes entreprises qui ont déjà ces dispositifs. Ça n'est pas le choix qu'a fait Joe Biden aux États-Unis, puisque lui, il souhaite quadrupler la taxe sur les rachats d'actions à 1% qui a été instaurée en janvier. Ça a un double avantage, c'est que ça ne profite pas aux salariés de ces entreprises, mais ça profite aux caisses de l'État, donc à tous les Américains. Et puis ça pousse les entreprises à investir au lieu de gâter leurs actionnaires, parce que c'est ça le reproche principal qu'on fait au rachat d'actions.
C'est de l'argent qu'ils auraient pu mettre dans l'investissement.
Eh ben exactement.
Ah bah j'ai tout compris, je suis contente.
Elle est forte.
Il est 7h25, Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange pirate, le 32-16.
Arnaud Demange qui est avec nous. Arnaud, vous êtes passé au standard. Est-ce qui fait réagir ce matin? C'est Emmanuel Macron qui a maintenu la visite du roi Charles III malgré la colère populaire et les manifestations.
Oui, quel meilleur moment, j'ai envie de dire, pour un dîner à Versailles avec un roi. C'est ce qu'on appelle le sens du timing. Et ça fait réagir Stéphane Bern. Ne venez pas, Majesté! Restez chez vous! Vous allez vous faire molester! C'est l'insurrection ici! It is the fucking revolution! Il est zinzin, Charles III! La France est à deux doigts de se révolter et Charlito, il va se promener sur les Champs-Élysées au KLM en costume de roi avec Emmanuel Macron, donc l'homme le moins populaire du pays. Ils ont craqué leur slip, les deux. Il est fou, ce Charles! C'est comme si notre Charles à nous se baladait sur la Canebière avec son maillot du PSG. Oui, on a notre roi Charles, nous aussi. Oui. Non, mais c'est vrai, on prenait Charles III pour un cultivateur de navets un peu neuneux et il vient chez nous en mode bab tout solide.
Peur de rien.
Anne Hidalgo a prévu de mettre les petits plats dans les grands. La maire de Paris nous dit « J'ai prévu, pour rendre hommage au roi Charles, d'installer de grandes oreilles de 50 mètres de haut de chaque côté de la tour Eiffel. » C'est François Bayrou qui va être content, il va croire que c'est pour lui. Et enfin, Emmanuel Macron, de son côté, ne veut pas décaler ce rendez-vous. Quel beau symbole, en ce temps où l'emploi des seniors est un vrai problème, que d'accueillir dans notre pays un homme qui a décroché son premier CDI à 74 ans. Prenez-en de la graine, les smicards. En voilà un qui sait apaiser les situations.
C'est
allez,
sûr.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Arnaud Demange. Rendez-vous à 8h20. Il est 7h27 et on se retrouve dans un instant pour la météo de journal. 7h30, c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Face au risque de radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites, les Français vont-ils se mobiliser aujourd'hui? 6 à 800 000 personnes sont attendues en France. 12 000 membres des forces de l'ordre seront sur le pont, un record. Les actions se poursuivent dans les raffineries, les ports, les universités. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les rails, dans les airs, mais aussi dans les transports en commun et l'éducation nationale. Emmanuel Macron n'a pas apaisé la colère de la rue. Hier, le chef de l'État ne regrette rien et se projette désormais sur l'avenir.
Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, les Français sont de nouveau appelés à se mobiliser.
9e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, la première depuis l'adoption de la réforme via le 49-3. Jusqu'à 800 000 personnes attendues dans les rues, 240 rassemblements au moins dans le pays. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'occasion, dont 5 000 à Paris. C'est un record depuis le début du mouvement. En cause, la crainte de débordement. Plusieurs centaines de manifestants issus de l'ultra-gauche sont attendus dans la capitale et cela pourrait impacter la mobilisation, Alfred Orange.
Elle en est presque désolée de l'annoncer.
Théoriquement, je vais pas.
Dominique est retraitée d'ordinaire, toujours mobilisée, mais pas aujourd'hui, trop risquée.
Moi, je suis inquiète. Je sais pas comment ça va tourner. J'ai pas envie de. Je peux pas courir devant les flics, quoi. Voilà, donc. Je pense pas que j'irai.
Oui, la mobilisation menace de ne plus être bon enfant comme avant, mais comment pouvait-il en être autrement?
Le 49-3, c'est sûr que ça pouvait qu'enflammer les choses.
Christiane et Michel iront tous les deux et resteront aussi longtemps qu'ils le pourront.
Dès que ça commence à grenader, là, son... Germont dégage.
On sera quand même compté parmi les manifestants.
Manon aussi sera là pour grossir les rangs. Si violence il y a, elle ne la redoute pas.
C'est pas ça qui nous empêchera d'être dehors dans les rues.
Cette étudiante en théâtre garde une motivation intacte.
Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus symbolique à être présent, quoi qu'il arrive, et même si on essaye de nous faire peur. Je veux me protéger, donc prendre un masque et du sérum s'il faut pour juste pouvoir continuer à le faire, quoi.
Les autorités attendent entre 40 000 et 70 000 manifestants aujourd'hui à Paris.
Inquiétude également des syndicats qui annoncent un renforcement du dispositif de sécurité. Encore de nombreuses manifestations spontanées hier soir à Paris, Nantes, mais aussi Lyon. Une centaine de personnes étaient mobilisées peu avant minuit. Ils étaient près d'un millier à Lille, la rue mobilisée, de nombreux secteurs en grève ce jeudi. C'est le cas dans les transports en commun, fortement perturbés à Paris, mais aussi à Lille, Nice ou encore Nantes, mais aussi Marseille. Des journées de grève à répétition qui commencent à agacer les usagers marseillais, à l'instar de Sonia.
Il y a zéro transport et du coup je ne pourrais pas me déplacer. Et comme je ne suis pas véhiculée, je suis obligée de rester à la maison. Moi j'aime pas trop le télétravail, mais bon, on va s'y faire. Hein. Arrive un moment, franchement, c'est compliqué, mais puisque c'est pour une cause, on peut pas se plaindre. On est obligé de s'y faire.
Et le trafic routier est également perturbé ce matin en Ile-de-France. Plus de 270 km de bouchons, c'est près de deux fois plus que la moyenne. Sur les rails, comptez un TGV sur deux, un TER sur trois. 20 à 30% des vols sont toujours suspendus aujourd'hui dans plusieurs aéroports du pays. Mouvement particulièrement suivi aussi dans l'éducation nationale. 40 à 50% des professeurs de maternelle et élémentaire sont en grève, taux le plus élevé depuis le début de la contestation. Les portes de 147 écoles parisiennes resteront closes ce matin sur les 645 que compte la capitale. Et pour les parents, c'est une nouvelle journée de galère qui s'annonce, le reportage de Margot Boult.
9e journée de mobilisation en 2 mois. Alors Marie, mère de 3 enfants, commence à connaître la chanson.
Oh ben on a l'habitude, hein. Il y a des antécédents. Hein.
Comme les autres parents, elle a déjà prévu de s'adapter.
C'est les grands-parents qui gèrent. On essaye de se relayer et puis on adapte notre travail. Hein. On fait du télétravail au maximum.
Et quand le télétravail n'est pas possible, ce sont les nounous qui sauvent la mise, comme Clarisse qui garde 7 enfants aujourd'hui.
En fait, ce sont des copains des enfants que je garde. Donc ce sont ses copains parce que les autres parents ne peuvent pas les garder. Donc on fait une petite communauté.
Des parents qui se retrouvent avec leurs enfants sur les bras, mais qui malgré tout soutiennent la grève.
À 1000% même. Donc voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour nous, c'est pour nos enfants.
La lutte sociale n'est jamais sans inconvénient pour quelqu'un. Là. C'est au bénéfice de tout le monde.
La grève, c'est un moyen qu'on active face à quelque chose et là, ça ne me paraît pas complètement illégitime de l'activer. Il ne faut pas forcément chercher la responsabilité du côté justement des enseignants. Elle serait plutôt du côté des auteurs de cette réforme.
Et pour certains travailleurs, la solution est toute trouvée pour garder leurs enfants aujourd'hui. Eux aussi, ils font grève.
Et les universités également mobilisées ce matin à Toulouse. Les étudiants réunis en assemblée générale hier ont voté pour la première fois depuis le début du mouvement le blocage reconductible des trois universités de la ville. Combien de Français en grève et dans la rue aujourd'hui? Le mouvement va-t-il se radicaliser? Journée spéciale jusqu'à minuit en temps réel à suivre sur RMC et rmc.fr. Les mots d'Emmanuel Macron hier n'ont pas calmé la colère de la rue. Déterminé à mettre en œuvre sa réforme d'ici à l'année, le chef de l'État exclut à 7h un remaniement. Il appelle d'ailleurs Elisabeth Borne à élargir la majorité. Et pour avancer, Cyprien Pézril, le président de la République, se dit prêt à revoir l'agenda des prochains mois.
Ce devait être le sujet qui allait de nouveau mettre le feu au Parlement, la loi immigration. Elle devait arriver au Sénat la semaine prochaine, mais finalement, ce ne sera pas le cas. Emmanuel Macron a décidé de reporter son examen. Pour autant, il l'assure, la France n'a pas le droit à l'immobilisme, tout en reconnaissant qu'il faut changer de méthode. Pour ça, il laisse 3 à 4 semaines à sa première ministre avec un cap en 3 axes. Le plein emploi avec une réforme du RSA, la défense de l'ordre républicain et enfin, ce qu'il appelle le mieux vivre, à savoir l'école, la santé et l'écologie. Matignon fait savoir qu'Elisabeth Borne consultera ministre et force politique dès la semaine prochaine avant de présenter ses propositions au président comme une mission qui pourrait conforter la chef du gouvernement ou bien, en cas d'échec, sceller la fin de sa tâche de première ministre.
Les précisions de Cyprien Pézril, service politique à RMC. Une enquête ouverte à Saint-Brévin-les-Pins, près de Saint-Nazaire, après l'incendie déclaré hier au domicile du maire de la commune. Deux voitures ainsi qu'une partie de la maison ont brûlé. L'élu a porté plainte. Yannick Mourez avait récemment été menacé de mort pour avoir soutenu le transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école de sa commune. Pour Philippe Croze, président du collectif des Brévinois attentifs et solidaires, la piste criminelle ne fait aucun doute.
On ne pouvait pas imaginer que ça aille jusque-là, qu'ils s'en prennent aux biens et même aux personnes, puisque le maire était à son domicile au moment où il y a eu cette attaque. Je pense que ça pourrait toucher n'importe lequel d'entre nous qui se manifeste pour dire qu'il faut que Saint-Brévin soit une terre d'accueil. C'est vrai que ça finit par faire peur, ce genre de choses. Je suis pas serein, voilà, je suis pas serein.
Une soirée difficile, compliquée pour les féminines du PSG et de l'OL. Toutes deux battues en Ligue des Champions. Les Parisiennes s'inclinent face à Wolfsburg 1-0. Même score en faveur de Chelsea, opposé à Lyon, tenant du titre. Match retour jeudi prochain.
Et puis les courses, c'est à Saint-Cloud.
Et c'est à 13h50 en direct sur RMC Découverte. Le 8 est les petits princes Sadi et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le numéro 12. Cham Sabahat, le 8 et le 12.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h37.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Suite de notre journée spéciale sur RMC, 9e journée de mobilisation au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron. Bonjour Thomas Ménager.
Bonjour.
Vous êtes député RN du Loiret. Pour vous, il faut retourner aux urnes, dissoudre l'Assemblée, et vous nous dites pourquoi dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC. On va lire vos messages sur Direct Studio, vos réactions. Tiens, vous avez écouté Emmanuel Macron hier. A-t-il apaisé ou attisé la colère à l'aube de cette nouvelle journée de mobilisation? J'ai Bruno qui nous écrit. Emmanuel Macron, moi, a attisé ma colère. Il a prouvé une fois de plus que la voix du peuple lui était indifférente. Il nous méprise un peu plus chaque jour. Je serai une fois de plus dans la rue aujourd'hui et j'ai bien peur que je ne sois pas le seul à avoir envie d'en découdre. Voilà ce que nous écrit Bruno, visiblement très remonté. À l'inverse, Doudou, j'imagine que c'est un pseudo, nous écrit Emmanuel Macron assume et il a raison. Vous dites qu'il jette de l'huile sur le feu, mais ce sont les syndicats qui n'arrêtent pas de jeter de l'huile sur le feu. N'oubliez pas que Laurent Berger est en campagne, il y a des élections professionnelles, les syndicats eux aussi font de la politique. Voilà ce qu'écrit Doudou. Et puis Nicolas nous dit, il y en a marre de ces blocages, la réforme des retraites est passée, les manifestations doivent cesser. Pour une fois, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, écrit Nicolas. Et vous, est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron a apaisé ou attisé la colère? Vous venez nous le dire tout de suite au 30 de 16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous écoutez RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Thomas Ménager, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député Rassemblement National du Loiret. 9e journée de mobilisation, aujourd'hui on va y revenir. Mais d'abord, Emmanuel Macron hier, qui lui appelle à passer à autre chose, à apaiser. De l'autre côté, vous avez des blocages qui se poursuivent, blocage des raffineries, dans les ports, dans les aéroports, dans les universités, blocage de certaines routes. Entre les deux, Vous seriez quand même plutôt du côté de l'apaisement d'Emmanuel Macron ou du blocage des manifestants ?
Ce qui est certain, c'est que oui, nous on souhaite l'apaisement, mais l'apaisement avec une personnalité comme le président de la République qui vient en finale pour être un agent provocateur, qui vient pour dire juste aux Français « je ne vous écouterai pas, j'ai raison sur tout et je continue », malheureusement ça ne va pas mener à l'apaisement. Nous ne souhaitons pas le blocage parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait de la souffrance à la souffrance, mais la seule manière d'éviter le blocage du pays, c'est que Emmanuel Macron retire avant la promulgation cette réforme des retraites.
Pour ça, on a compris qu'il n'allait pas le faire.
Bah malheureusement, et c'est pour ça qu'on dit aux Français tenez bon, on n'est pas condamné à cette situation, on n'est pas condamné au déclin et que malheureusement on doit déjà peut-être passer dans l'étape
d'après. Quand vous dites tenez bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenez bon jusqu'aux prochaines élections, on arrive, ou ça veut dire tenez bon, continuez à vous mobiliser, allez dans la rue, ne lâchez rien?
Les deux. Nous, on n'appelle pas à manifester, les Français sont libres, ils n'ont pas besoin que les politiques leur donnent des ordres ou des conseils pour aller manifester. Il n'y a pas besoin d'un projet de loi en débat pour manifester, c'est un droit constitutionnel, même pour faire grève. On ne veut pas le blocage du pays, on ne veut pas la France à l'arrêt. Et bien entendu, on leur dit oui, on n'est pas condamné à cette situation. Et en 2027, ou peut-être avant, et c'est pour ça, vous l'avez dit tout à l'heure, on appelle à une dissolution. Nous considérons que les Français doivent retourner aux urnes et choisir de nouveaux représentants.
C'est assez commode pour vous. Je trouve ça assez commode. Parce qu'en fait, l'apaisement, bon, bah, finalement, vous le condamnez du côté d'Emmanuel Macron. Vous trouvez qu'il n'est pas dans le bon terme. Mais enfin, malgré tout, le côté institutionnel, faudra peut-être passer à autre chose. Ça vous arrange. Et puis, de l'autre côté, quand même, c'est bien que les gens manifestent. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Ils le font tout seuls. Donc, pour vous, c'est tranquille, quoi.
Non, enfin, vous savez, on ne se satisfait pas de cette situation. Mais bien entendu, oui, on se prépare à apporter une offre alternative. C'est aussi pour ça qu'on avait déposé cette motion de censure. Faire tomber un gouvernement pour faire tomber un gouvernement, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les Républicains, eux, sont peut-être incapables de le faire. Mais nous, avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, on a des leaders,
alors,
on a un projet.
Alors, il y a un certain nombre d'élus, les Républicains, qui ont visiblement, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont entendu votre appel ou si c'est parce que, de toute façon, ils voulaient voter cette censure, mais enfin, vous les avez sans doute mis à l'aise, puisque vous aviez annoncé que ceux qui voteraient en faveur de la motion de censure n'auraient pas d'adversaire face à eux s'il y avait eu une dissolution. Dans toutes les projections, on voit que ce serait plutôt le RN qui serait gagnant, qui sortirait avec davantage de députés encore qu'il n'en a aujourd'hui. Donc vous avez tout intérêt, vous, à ce qu'il y ait une dissolution maintenant.
Oui, mais ce n'est pas pour nous. Et là, on l'a prouvé, puisqu'on accepterait de faire des sacrifices de quelques députés de notre famille politique pour soutenir des personnes qui, en fait, ont l'intérêt général comme boussole. Et ils partagent cette volonté de toujours mettre en priorité l'intérêt général avant les intérêts particuliers. On a fait le choix de faire passer le pays avant notre parti. Et donc, bien entendu, nous souhaitons cette dissolution. Et je pense que oui, les Français, depuis que nous sommes arrivés, nous voient tels que nous sommes, des défenseurs de l'intérêt général, des défenseurs de la nation et des personnes qui souhaitent l'apaisement, contrairement à Emmanuel Macron qui est dans une politique très brutale.
Un mot sur ce qui s'est passé cette nuit. L'info de la nuit, c'est ce rassemblement devant la raffinerie de Gonfreville en Normandie où, d'après les salariés, il y aurait des réquisitions prévues. Est-ce que vous vous dites que oui, il faut des réquisitions parce qu'il faut que l'essence sorte?
Ah, au bout d'un moment, oui, malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut bien entendu qu'il y ait le droit de grève qui soit respecté, qu'il y ait le droit de manifester qui puisse se faire dans notre pays. Mais moi, vous savez, dans le Loiret, dans le Gâtinais, on a vécu il y a quelques mois cette difficulté à obtenir de l'essence. Et Emmanuel Macron, si on parle de l'essence, n'a absolument apporté aucune réponse. C'est aussi ça le bilan de cette intervention. Aucune réponse sur les sujets et les mots.
Il a dit qu'il demanderait un effort aux plus grandes entreprises pour partager les super profits. On peut imaginer que Total en fait partie.
Mais on est d'accord. Mais derrière, il faut que ça soit redistribué. L'année dernière, Bercy a touché 86 milliards de recettes fiscales supplémentaires. S'il ne rend pas cet argent aux Français, puisqu'à chaque fois qu'il y a de l'inflation, il y a une hausse des taxes et l'État s'en met beaucoup plus dans les poches. Mais il faut rendre cet argent, redistribuer, et pas toujours sur une seule partie de la population, mais le redistribuer pour toutes les classes populaires et classes moyennes qui ont été oubliées de tous les dispositifs gouvernementaux depuis des mois.
Thomas Ménager, est-ce que vous redoutez des violences aujourd'hui ?
Oui, malheureusement. Malheureusement, après les propos du président de la République, après les propos qui vont me faire agiter, qui vont me faire que provoquer, de mettre de l'huile sur le feu, malheureusement. Et nous appelons les Français à ne pas céder à la violence, même si on comprend parfaitement le colère, on comprend parfaitement qu'ils en aient ras-le-bol, qu'ils en aient marre, mais il faut surtout qu'ils s'engagent et qu'ils préparent avec nous l'alternance, puisque ça sera la seule solution et ça se passera par les urnes.
La loi immigration est reportée et elle va être découpé en plusieurs sous-textes. Voilà ce que nous a dit Emmanuel Macron hier. Éric Ciotti, le patron des Républicains, disait hier « Le combat contre l'immigration de masse n'est plus une priorité pour le gouvernement. C'est même une faute », disait-il. Est-ce que vous aussi, vous considérez que cette loi immigration, elle aurait dû arriver plutôt et ne pas être reportée ?
Bah, vu ce qu'il y avait dedans, non. Enfin, dans tous les cas, c'était une loi immigration pour au final ouvrir totalement encore
plus. Donc déjà
plus
la loi telle qu'elle était prévue, de toute façon, vous intéressait pas.
Non, pas du tout. C'était pour créer une nouvelle filière d'immigration. Le cœur de cette loi, c'était de créer un nouveau type de titre de séjour pour les métiers en tension. Plutôt que se concentrer sur la hausse des salaires, plutôt que se concentrer sur la formation pour répondre à un certain nombre de problématiques d'emploi que nous partageons.
L'état d'esprit que défendait Gérald Darmanin, c'était de dire on sera plus ferme avec ceux qui veulent venir sans travail, mais plus accueillant pour ceux qui viennent ici travailler.
Tout en régularisant ceux qui étaient rentrés illégalement et qui ont peut-être aujourd'hui un travail illégal sur notre pays.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous finalement que cette loi elle soit reportée.
Ah bah dans tous les cas, malheureusement, ça ne réglera pas les problèmes d'immigration. Et je pense que sur ce sujet, les Français savent que nous sommes à la pointe depuis des années et que nous avons les solutions. Mais oui, pas faire une loi pour une loi et une loi qui va au final augmenter les problématiques en matière d'immigration, vaut mieux ne rien faire et vaut mieux qu'on arrive en 2027 et qu'on règle réellement ces problèmes.
Il y a cette visite prévue du roi Charles III qui devait être reçue ou doit être reçue à Versailles par Emmanuel Macron. Il semble qu'à l'Élysée, on hésite finalement sur ce symbole. Est-ce que vous vous dites oui, il ne faut pas aller à Versailles ou est-ce qu'au contraire, vous dites on assume la grandeur de la France en quelques moments que ce soit?
Non, je pense que malheureusement, si l'on avait un président de la République qui lui était proche des Français, quand ils étaient à Versailles, on n'aurait pas le sentiment que oui, c'est un monarque républicain comme on a eu le sentiment hier à l'Élysée. Après, bien entendu,
le problème, ça fait partie du règlement. C'est Emmanuel Macron.
Mais c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand on a, si on a un président de la République qui représente dignement notre pays et qui doit accueillir des chefs d'État étrangers, bien entendu, c'est une fierté. Il faut faire rayonner notre pays. Donc, c'est pas le problème en tant que tel. Malheureusement, quand c'est un président de la République qui se comporte tel un monarque républicain qui méprise les Français, oui, il va y avoir cette distance et les images vont quand même être très violentes avec des Français à qui on tape sur la tête en leur demandant 2 ans de plus, à qui on ne répond pas aux problématiques actuelles en matière d'inflation, notamment alimentaire et énergétique, en matière de carburant, et un président de la République qui va aller manger tranquillement à Versailles après avoir dit aux Français circuler, il n'y a rien à voir, je décide et j'avance sans vous.
Donc pour vous, j'ai pas compris, on maintient, on maintient pas?
Je pense qu'il faut le maintenir, oui, oui, je considère qu'on ne va pas annuler.
Vous regrettez qu'Emmanuel Macron soit Emmanuel Macron, en gros,
oui.
Mais
vous avez tout compris, si c'était Marine Le Pen qui l'accueillait et qui avait eu un apaisement dans le pays, si on n'avait pas ce projet de réforme, il n'y aurait pas de problématique. Bien entendu, il faut faire rayonner notre pays, il faut accueillir, il faut avoir des relations diplomatiques avec les autres pays.
Et donc, une fois qu'on s'est engagé à accueillir le roi Charles...
On va pas annuler un chef d'État étranger parce qu'Emmanuel Macron se comporte mal. On ne va pas non plus abaisser, encore une fois, la France, malheureusement.
Donc, il faudrait juste que Emmanuel Macron... Et même aller à Versailles s'il le faut, quoi.
Mais oui, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut qu'Emmanuel Macron, lui, présente ses excuses, lui revienne sur cette réforme des retraites, lui se comporte avec de l'empathie et pas avec la même arrogance, la même morgue habituelle vis-à-vis des Français.
Thomas Ménager, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes le député Rassemblement National du Loiret. Il est 7h49 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Suite de notre journée spéciale pour ce 9e acte de mobilisation avec une question. Y a-t-il eu des arrestations injustifiées ou arbitraires? Réponse avec Nicolas Poincaré. Ses explications, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Le chanteur canadien The Weeknd enregistre 2 nouveaux records. I don't wanna know.
Il enchaîne les tubes depuis des années et peut aujourd'hui se targuer d'être officiellement l'artiste le plus populaire de la planète. Abel Makonnen Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd, vient de décrocher un nouveau record au Guinness Book, celui de l'artiste le plus écouté sur la plateforme de streaming Spotify. 111 millions de visiteurs, d'auditeurs chaque mois pour ses tubes comme Creeping qu'on écoute ou encore I Feel It Coming avec Daft Punk. Alors pour vous donner une idée, avec 111 millions d'auditeurs, bah c'est par exemple 30 millions de plus chaque mois que des chanteuses comme Shakira ou Rihanna. Et au passage, le Guinness Book vient de lui attribuer un autre record, celui de la chanson la plus streamée de tous les temps. 3,5 milliards d'écoutes pour Blinding Lights, son titre sorti il y a 3 ans.
RMC, Apolline Matin.
7h53, l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous
Nicolas, depuis le début des rassemblements spontanés contre la réforme des retraites, on assiste à un grand nombre d'arrestations et de placements en garde à vue. Des avocats dénoncent des gardes à vue arbitraires.
Oui, parce que les chiffres posent question. Lors des 3 premières soirées de manifestations sauvages qui ont suivi l'utilisation du 49.3, 425 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi ces 425 personnes, 52 seulement ont fait l'objet de poursuites et pour la plupart seront jugées plus tard. Les autres ont donc été libérées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. 425 moins 52 égale 373. Il y a donc eu 373 personnes qui ont été retenues entre 24 et 48 heures dans des commissariats avant que finalement on leur dise « vous pouvez rentrer chez vous ». votre placement en garde à vue n'était pas justifié, c'était une erreur. Autrement dit, il y a eu 373 erreurs en 3 jours. Ça fait beaucoup. Une garde à vue qui se termine sans poursuite, ça devrait être l'exception. Ces derniers jours, c'est devenu la règle.
Et on peut lire ces derniers jours de nombreux témoignages sur les conditions de ces gardes à vue.
Oui, conditions aggravées par le fait qu'elles étaient nombreuses, en particulier à Paris, ce qui veut dire qu'il y a eu embouteillage. Souvent, les personnes interpellées ont été retenues dans des bus plusieurs heures avant de pouvoir rejoindre un commissariat. Une étudiante de Sciences Po, Aïsa Virelli, a raconté sur les réseaux sociaux avoir été arrêtée à Paris avec 11 autres femmes. Une vidéo montre que ces arrestations se sont faites dans le plus grand calme, aussi bien du côté des manifestantes que du côté des policiers. Ces 12 femmes ont ensuite été enfermées 20 heures, toutes dans la même cellule, avec quelques matelas sommaires qui sentaient l'urine. Elles ne pouvaient accéder aux toilettes qu'à condition de garder la porte grande ouverte. Elles ont finalement toutes été relâchées sans poursuite. Dans les journaux ces derniers jours, on a lu de nombreux témoignages de gardés à vue fouillés en sous-vêtements, des témoignages sur la difficulté pour obtenir de quoi boire ou de quoi manger. Libération a aussi raconté l'histoire de 2 jeunes Autrichiens de 15 ans qui étaient en voyage de classe à Paris, qui se sont retrouvés en garde à vue et qui disent avoir été insultés et humiliés. Ils ont finalement été libérés après l'intervention de leur ambassade.
Et la plupart de ces gardés à vue ont tout de même participé quand même à des rassemblements interdits, sauvages.
Oui, en tout cas, des rassemblements qui n'ont pas fait l'objet de demandes d'autorisation, donc effectivement des manifs sauvages. Mais cela ne justifie pas un placement en garde à vue. On ne peut retenir quelqu'un de force dans un commissariat que s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il ait participé à un crime ou à un délit passible d'une peine de prison. C'est logique, on n'enferme pas sans procès quelqu'un qui, au bout du compte, ne risque pas une peine d'enfermement. Or, participer à une manifestation interdite, eh bien c'est puni par une simple amende de 4e classe. Ce n'est pas un délit et encore moins un crime. Ça ne peut donc pas vous conduire en garde à vue. Du coup, les manifestants sont poursuivis pour d'autres infractions comme outrage, rébellion, ou bien le plus souvent pour participation à un groupement en vue de préparation de violence. On sanctionne donc une intention qui, dans la réalité, est assez difficile à prouver. C'est un texte qui avait été prévu au départ pour prévenir les violences des hooligans et qui est maintenant appliqué aux manifestants.
Et que répond à tout cela la préfecture de police ?
Eh bien, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur BFM TV, conteste qu'il y ait des interpellations injustifiées. Il explique que les manifestants ne sont arrêtés que lorsque des infractions sont constituées, mais que, je cite, 48 heures de garde à vue, eh bien, c'est court pour matérialiser les faits. Autrement dit, les manifestants sont relâchés parce que les policiers ne parviennent pas à prouver dans les temps qu'on avait quelque chose à leur reprocher. Claire Hédon, la défenseure des droits, n'est pas très convaincue. Elle alerte sur des mesures de privation de liberté qui pourraient être, je cite, disproportionnées.
Les explications de Nicolas Poincaré, c'est chaque jour en direct à 7h50 sur RMC et à tout moment sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 8h avec à la une ce dispositif de sécurité inédit prévu pour la journée de mobilisation.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.